Le gouvernement Barnier, malgré un accord parlementaire hier sur le budget de la sécurité sociale.
L'équipementier automobile Valeo va licencier plus de 800 personnes et fermer 2 sites en France. Il l'impute aux difficultés du secteur automobile.
Les syndicats dénoncent, eux, une volonté de préserver les marges à tout prix. Et puis à l'étranger, nous irons au Liban Sud, d'où est censé se retirer le Hezbollah. Marguerite Caton, quelle question du jour après ce journal ?
Eh bien, quel avenir pour le délit d'apologie du terrorisme ?
Réponse à partir de 7h15. Incertitude à tous les niveaux, c'est en substance l'état d'esprit qui domine au Parlement comme au gouvernement, alors qu'hier soir, une commission mixte paritaire a réussi à se mettre d'accord sur le budget de la sécurité sociale en validant une baisse des allègements de cotisations patronales à hauteur de 1,6 milliard d'euros, loin des 4 milliards prévus initialement par le gouvernement, mais loin aussi de ce que souhaitaient les députés du camp macroniste farouchement opposés à toute augmentation de charges pour les entreprises. Un compromis arraché, donc, mais dont rien ne dit qu'il sera validé ensuite par les deux chambres. Et c'est toujours l'option du 49-3 qui tient la corde. Option dangereuse pour Michel Barnier, car il déclencherait le dépôt d'une motion de censure que le RN menace de voter, tout comme la gauche. Et ce, malgré les mises en garde répétées des membres du gouvernement. Rosalie Lafarge.
Majoritaire dans la commission mixte paritaire, la coalition gouvernementale s'est mise d'accord avec elle-même, dénonce à l'issue le socialiste Jérôme Guedj.
Le gouvernement a créé les conditions de sa propre censure. Parce que si on veut sérieusement éviter un 49-3, alors on accepte le compromis. Et on ne dit pas « j'ai raison tout seul ». Donc qu'ils ne viennent pas se lamenter des drames ou des situations intenables qu'ils ont eux-mêmes créées.
Et ce n'est pas le président du groupe communiste attendu à Matignon ce matin qui va rassurer Michel Barnier sur son avenir.
Il est bien évident qu'on veut mettre le gouvernement devant ses responsabilités.
Parce que comme beaucoup dans l'opposition, André Chassaigne n'en peut plus d'entendre l'exécutif et ses soutiens dramatiser.
En aucun cas, on ne veut encourager une forme de craque qui pourrait avoir lieu, d'effondrement de notre économie, de non-paiement des salaires. Ce sont des mensonges. Ils essaient de semer la panique dans la population pour essayer de détourner de leur vraie responsabilité.
La Constitution permet sur le budget de se retourner si le gouvernement tombe et avec lui les textes concernés, insiste encore le vice-président du groupe RN à l'Assemblée, Gaëtan Dussausset.
Essayer de faire peur aux Français en leur disant qu'on va avoir des pluies de sauterelles, le réveil des volcans et que ça va être l'anarchie, c'est faux. C'est pas parce qu'on s'oppose à la politique d'un gouvernement que tout de suite, ça c'est le chaos général. Et quand bien même il y aurait de l'instabilité, il faut aller chercher justement les responsables de cette instabilité.
Le Rassemblement National ira-t-il chercher le Premier ministre ? Dès la semaine prochaine, les députés RN doivent se réunir cet après-midi pour en décider. Ils font monter la pression, se persuade un macroniste convaincu qu'il est encore possible, non pas d'éviter, mais de repousser la chute du gouvernement Barnier.
Un gouvernement qui devrait connaître une nouvelle journée difficile. Aujourd'hui, une niche parlementaire déposée par la France Insoumise vise en effet à abroger la réforme des retraites. C'est la concrétisation du vaste plan social qui sévit dans l'industrie française, un phénomène constaté aussi bien par la CGT que la Confédération des petites entreprises. L'équipementier automobile Valeo, qui fabrique notamment des éclairages pour les voitures, va supprimer 868 emplois en France sur un total de 13 500. Deux sites vont fermer, la Suze sur Sarthe, près du Mans, et La Verrière dans les Yvelines, dans un contexte où les sous-traitants automobiles subissent le contre-coup des graves difficultés du secteur. La direction de Valeo invoque justement le recul global du marché automobile pour justifier ce plan social. En attendant, à la Suze sur Sarthe, 300 personnes vont se retrouver sans emploi. Les précisions de Julie Leduf de France Bleu Maine.
Le coup près, après des mois de supplice, ça fait depuis le 15 juillet que les 270 salariés de Valeo La Suze, 300 personnes si on compte les intérimaires, ça fait donc depuis le 15 juillet que les salariés attendent d'être fixés sur leur sort. Depuis en fait l'annonce de la mise en vente de leur usine qui actuellement fabrique des équipements thermiques pour l'industrie automobile. Un cabinet spécialisé a été mandaté pour trouver un repreneur, mais rien n'a abouti. Et cette fermeture, c'est bien ce à quoi s'attendaient les salariés sartois, dont beaucoup nous ont confié ces derniers mois qu'ils n'avaient pas vraiment d'espoir. Une grande partie d'entre eux a plus de 50 ans et se dit pas mobile. Il y a un mois, ils étaient nombreux à défiler dans les rues de la Suze sous le regard inquiet des habitants et des commerçants qui craignent les répercussions pour le tissu économique de cette commune de 4500 habitants.
Les syndicats de Valeo critiquent, eux, une décision qu'ils estiment motivée par d'autres facteurs que la mauvaise santé du marché. Ils mettent en avant le bénéfice bénéfice de 221 millions d'euros de Valeo l'année dernière. L'entreprise, disent-ils, a par ailleurs reçu différentes aides de l'État ces dernières années, mais refuse de réduire ses marges. Écoutez à ce propos Hicham Labil, élu au CSE, le Comité Social et Économique de Valeo. Il est interrogé par Hakim Kasmi.
Je pense en tant qu'élu que pendant des années de difficultés comme celles qu'on vit, il faut oublier un petit peu les objectifs de marge. Donc il faut accepter qu'il y ait des années difficiles comme celles-là. Par contre, voir notre entreprise maintenir ses objectifs de marge pendant des années de crise comme celle-là est incompréhensible.
Est-ce que Valeo ne profite pas, entre guillemets, du contexte morose pour dégraisser ses effectifs ?
Je pense que oui. Je pense que, comme tous les autres équipementiers et les constructeurs, c'est une façon de dire, voilà, c'est le secteur qui va mal. Et on voit clairement qu'ils ont tous attendu pour faire tous leurs plans sociaux au même moment, pour se justifier les uns comme les autres. Voilà, tout le monde le fait, c'est la crise de l'automobile. Je pense qu'il y a ça aussi.
Il n'en reste pas moins que le secteur automobile devrait souffrir encore de la diminution de moitié actée hier par le gouvernement du bonus à l'achat d'une voiture électrique. Décision que de nombreux pays ont prise aussi. L'Allemagne a carrément supprimé ce bonus. Et aux États-Unis, Donald Trump a annoncé qu'il ferait de même dès son arrivée au pouvoir. Exit le crédit d'impôt fédéral de 7 500 $ à l'achat donc d'une voiture électrique. Mais dans certains États, ces véhicules électriques restent un marché très dynamique. En Californie, notamment, qui a donc décidé de compenser cette suppression de la subvention si elle était effective. À Los Angeles, les précisions de Loïc Piala.
25% des véhicules neufs vendus en Californie aujourd'hui sont électriques ou hybrides. L'ambition est d'arriver à 100% dès 2035. Le Golden State a longtemps offert lui aussi un crédit d'impôt pour l'achat de ces véhicules électriques. Le programme sera réactivé si jamais Donald Trump supprime les aides fédérales. Le gouverneur démocrate Gavin Newsom n'a pas donné de détails, mais l'argent viendra d'un fonds sur la réduction des gaz à effet de serre. Un fonds qui sert à financer le recyclage de l'eau, le développement d'énergies renouvelables ou des logements durables. Des arbitrages seront donc nécessaires. Donald Trump, pas un fan de l'électrique, compterait sur les sommes économisées pour payer de futures réductions d'impôts sur le revenu. Son conseiller Elon Musk soutient l'arrêt de ses subventions. Il pense même que Tesla y gagnera sur le long terme. Si le constructeur a largement profité des aides publiques à ses débuts, il occupe désormais une position très favorable sur le marché. L'entreprise est bénéficiaire. Ce serait la concurrence qui souffrirait le plus de la mesure promise par le président élu.
Loïc Piala.
7h07 sur France Culture, c'est la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. Avec au Liban les suites de l'accord de cessez-le-feu, effectif depuis hier matin. Des dizaines de milliers de Libanais ont pris le chemin du retour pour retourner dans leurs villes et villages.
Qu'ils retrouveront certainement dévastés par 2 mois de guerre entre Israël et le Hezbollah. Le Hezbollah qui, on le rappelle, est censé se retirer de ses bastions du sud du pays, remplacé à terme par l'armée libanaise. Une opération que beaucoup estiment difficile à mener, c'est en tout cas ce que croit cet ancien soldat libanais aujourd'hui à la retraite, rencontré par notre envoyé spécial à Beyrouth, Omar Waman.
Le sud du Liban, Elias y a été affecté durant 8 ans sous l'uniforme libanais. Il a été témoin de l'influence du Hezbollah.
Le sud du Liban appartient au Hezbollah. Il est implanté partout. Des pans entiers de l'économie du sud du pays reposent sur lui.
Et c'est ce qui faisait la force de la milice chiite, son emprise sur l'économie de la région et son ancrage parmi la population. Mais les bombardements israéliens de ces derniers mois ont changé la donne.
Le Hezbollah est très affaibli. C'est pour ça qu'il a accepté de se retirer. Mais ça va être très difficile pour l'armée libanaise, car elle aura besoin de son accord pour se déployer dans certains secteurs.
Car les membres du Hezbollah sont des enfants du sud du Liban. Beaucoup sont prêts, par vengeance, à faire voler en éclats ce cessez-le-feu. D'où l'importance, selon Elias, d'aider l'armée libanaise.
Si la France et les États-Unis aident l'armée libanaise avec des armes et de l'entraînement, elle réussira à remplacer le Hezbollah. Sinon, et c'est sûr, il deviendra de plus en plus fort et finira par reprendre ses positions le long de la frontière du sud du Liban.
Et pour s'assurer que l'accord soit bien respecté, un comité de surveillance composé de 5 pays et présidé par les États-Unis va voir le jour prochainement.
En France, partie prenante de cet accord de trêve, une polémique est en cours à propos de l'immunité dont bénéficierait le président israélien Benjamin Netanyahou, désormais visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Paris répète depuis plusieurs jours que la France respectera ses obligations internationales à ce sujet. Concrètement, elle pourrait arrêter le Premier ministre israélien s'il venait sur son sol. Mais hier, le ministère des Affaires étrangères a invoqué les obligations prévues dans le droit international et liées aux immunités des États non parties à la CPI, ce qui est le cas d'Israël. Pour plusieurs juristes et ONG, cette position française ne tient pas. On y reviendra dans le journal de 8 heures. En Ukraine, l'impossible transparence sur le nombre réel de morts au combat contre l'envahisseur russe. Le magazine The Economist livre pourtant une estimation ces derniers jours. Entre 100 et 140 000 soldats ukrainiens seraient tombés depuis le début de la guerre. Un chiffre que refuse de confirmer Kiev. Notre envoyé spécial Camille Magnard s'est rendu au service de médecine légale de la ville de Dnipro, à l'arrière du front, dans l'est ukrainien, avec Sandrine Malon et Yachar Fazilov. Écoutez leur reportage.
Sur le parking de la morgue, quatre grandes remorques frigorifiques réglées sur moins 14 degrés. À l'intérieur, des centaines de corps de soldats ukrainiens attendent d'être identifiés par les équipes de l'expert légiste Valérie Vioun.
Les armes qui sont utilisées aujourd'hui sont tellement inhumaines qu'elles ravagent les corps jusqu'à les rendre méconnaissables. Souvent, on ne récupère que des fragments de corps et ça rend l'identification très compliquée. Une fois, une mère a reconnu son fils seulement grâce à sa main, la forme des doigts et des ongles.
Accompagner les familles, c'est le travail de Victoria Gerashenko. Depuis le début de la guerre, elle prend des calmants pour tenir le coup.
C'est dur parce qu'on a les proches au téléphone. Ils nous racontent leurs malheurs et ensuite, quand ils viennent ici, on leur montre les photos du corps. C'est impossible d'encaisser ça, surtout pour les parents. Souvent, ils deviennent fous de chagrin. Et j'avoue que parfois, j'ai envie de tout plaquer.
Quant aux corps que personne n'arrive à identifier, ils repartent dans des cercueils de pain clair, enterrés sous une croix avec ces mots « soldats temporairement inconnus, morts pour l'Ukraine ».
Camille Magnard. Retour en France où l'on se demande si le programme d'éducation à la vie sexuelle prévu et promis pour la rentrée 2024 dans les établissements scolaires verra réellement le jour. Il est encore à l'étude, mais si l'on en croit les déclarations du ministre délégué à la réussite scolaire, Alexandre Portier, il pourrait y rester encore. Selon lui, le texte n'est pas acceptable en l'état. Il l'a dit hier devant des sénateurs. Alors Jeanne Serrin, quelles sont les réserves qu'Alexandre Portier émet sur ce texte?
Trois points suscitent l'inquiétude du ministre délégué. C'est d'abord un programme plus approprié, en tout cas mieux adapté au stade de développement des élèves qu'exige le ministre. Il souhaite ensuite garantir un encadrement très strict des intervenants, regarder avec attention les associations qui interviennent sur ces sujets. Le militantisme n'a pas sa place dans nos écoles, a rappelé Alexandre Portier devant les sénateurs. Troisième réserve, la théorie du genre, elle non plus n'y a pas sa place. Je m'y engagerai personnellement, promet le ministre délégué, en tant qu'élu, mais aussi en tant que père de famille, a-t-il tenu à rappeler. Un discours destiné surtout à rassurer les milieux conservateurs, en conclut la présidente du SNES-FSU, Sophie Venetite.
Quand il parle de théorie du genre, il faut rappeler que la théorie du genre n'existe pas, que ça relève plutôt d'une panique morale qui est régulièrement diffusée par l'extrême droite. Ce qu'est en train de faire Alexandre Portier, c'est donner raison aux marchands de peur, au mépris de l'éducation et la prévention.
Cette prise de parole intervient quelques jours après que plusieurs associations ont exprimé leurs craintes dans le journal du dimanche envers un programme qui institutionnalise, selon elles, la culture woke. Un raccourci inexact, répondent ceux qui ont participé à son écriture. Grégoire Ancel, président de la FCPE, premier syndicat de parents d'élèves.
Ce programme va permettre aux enfants d'apprendre la question du consentement. C'est un programme positif, constructif et qui répond à des enjeux de société qui nous heurtent aujourd'hui et sur lesquels on doit construire des réponses pour outiller les enfants qui sont les adultes de demain.
La copie définitive du gouvernement doit être présentée à la mi-décembre.
Jeanne Serrin, un mot très rapide du temps de ce jeudi, plutôt ensoleillé, compté au plus chaud 16 degrés du nord au sud. Je vous retrouve à 7h30 pour le journal de l'Écho. On parlera de l'exportation de nos déchets plastiques. Pour l'heure, la suite des Matins de Culture avec vous, Guillaume Erner.
Et avec nos remerciements à Anne-Laure Chouin. Dans quelques secondes, la question du jour de Marguerite Caton. Quel avenir pour le délit d'apologie du terrorisme ? Et il paraît qu'on l'entend trop pendant les matins. Alors voici à 7h14, un espace de liberté d'expression pour mon thermos. À 7h14, les thermos ont la parole sur fond de journaux froissés entre les mains de Marguerite Caton.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Marguerite Caton, bonjour.
Bonjour Guillaume et bonjour à tous.
Le délit d'apologie du terrorisme ce matin.
Un délit que la loi Cazeneuve de 2014 a introduit dans le code pénal et que veut abroger la France insoumise. Il ferait l'objet, selon les termes de la proposition de loi déposée par Hugo Bernalicis, d'une instrumentalisation dommageable à la liberté d'expression et d'autant plus à l'heure actuelle en contexte de résurgence du conflit israélo-palestinien. Alors pour éclairer le débat, nous recevons Christophe Bigot. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu ce matin. Vous êtes avocat en droit de la presse. Alors nos auditeurs se demandent peut-être pourquoi nous n'avons pas invité un pénaliste. Il faut commencer par dire qu'il existait déjà avant 2014 un délit d'apologie du terrorisme, mais qu'il était alors inscrit dans la loi sur la liberté de la presse. Pourquoi ce délit ne suffit-il plus aux législateurs en 2014 ?
Alors, en termes de contexte, c'est une période particulière. Il y a eu l'affaire Mera, il y a eu la montée en puissance de Daesh, il y a eu une grande loi générale sur la lutte contre le terrorisme, et c'est à cette occasion que les parquets ont souhaité faciliter les poursuites. Pas modifier les qualifications pénales, mais faciliter les poursuites avec des délais de prescription plus longs, des possibilités de garde à vue. Et c'était le but de ce déplacement d'une infraction qui existait déjà dans la loi sur la presse et qui a été localisée ensuite dans le code pénal.
Parce que quand on a une infraction et dans le droit de la presse, en fait, elle est soumise à un régime de poursuite, je crois qu'on dit comme ça, très particulier, très protecteur.
Voilà, il y a toute une série de protections de la liberté d'expression qui s'appliquent pour l'ensemble des infractions dans ce domaine-là. Et c'est un régime qui est cohérent et qui permet de garantir la liberté d'opinion. Et à partir du moment où on sort une infraction de cette loi, on se retrouve dans un régime beaucoup plus dur, hein, notamment pour le terrorisme, avec des gardes à vue très longues. Et c'est ça qu'a voulu faire le législateur en 2014.
Voilà, et donc on comprend bien que c'est surtout dans les procédures qu'il y a une évolution, plus que dans la formulation, qui n'a pas varié, même si quand même les peines aussi ont été durcies. 5 ans de prison dans tous les cas, 45 000 euros d'amende quand il était avant 2014 dans le droit de la presse. On est passé à 75 000 euros d'amende. Et puis les sanctions sont renforcées quand les propos sont tenus sur Internet.
Oui, alors, faut pas trop s'attacher au maximum des peines. Hein. Faut juste rappeler quand même que la France a été condamnée à Strasbourg, parce qu'elle avait condamné Jean-Marc Rouillant, à l'époque responsable d'Action Directe, à 18 mois de prison, dont 10 avec sursis. Donc déjà, on était déjà au-delà de ce que considérait la Cour européenne des droits de l'homme comme légitime.
Pas proportionnel.
Voilà.
C'est pas que le délit lui-même ne s'appliquait
pas. Exactement.
La
sanction n'était pas proportionnée. Voilà.
Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même que depuis 2014 et ce changement, on voit qu'il y a eu beaucoup plus de condamnations pour ce motif qu'auparavant. Cependant, les chiffres recueillis auprès du ministère par Mediapart vont plutôt à l'encontre, au moins, ça me semble, d'une inflation répressive. Au pic des attentats de Daesh sur notre sol, en 2016, on a 526 condamnations. Dès l'année suivante, on commence à descendre. 352 condamnations en 2017, 260 en 2018, 228 en 2019, 179 en 2020, on arrive à 136 en 2022. Donc, on est loin d'une dérive abusive, non, Christophe Bigot ? Quel est votre avis ?
Sont des vagues, en réalité. C'est-à-dire que ça suit les vagues d'attentats. Donc, en effet, après 2015, il y a beaucoup de procédures. Ensuite, ça se calme. Et il y a beaucoup de procédures qui ont été réactivées après le 7 octobre 2023. Mais, dans l'ensemble, ce n'est pas un mouvement continu d'inflation des procédures.
Alors voilà, on n'a pas les chiffres de 2023, d'autant que les affaires sont pour la plupart
en cours.
Notamment celles qui concernent la France insoumise quand même, avec Mathilde Panot qui avait été entendue, Rima Hassan aussi par la police. Mais de votre point de vue, Christophe Bigot, là on a une remontée des poursuites.
Oui, je pense qu'il y a une vraie remontée des poursuites dans un contexte qui est assez nouveau, puisque avant c'était surtout des attentats sur notre sol. Maintenant, ce sont des attentats terroristes qui s'inscrivent dans une toile de fond, dans une toile de fond géopolitique. Et donc ça, c'est vraiment une nouvelle problématique qui n'avait pas été envisagée avant par les juges.
Ça n'avait jamais existé comme réflexion ?
Pas vraiment, non. Pour l'apologie de terrorisme, pour des actes commis à l'étranger, c'était très marginal.
D'accord, et donc c'est d'ailleurs pour ça peut-être que le ministre a pris une circulaire dès le 10 octobre 2023 pour expliquer, alors je vais le citer, que la tenue publique de propos vantant les attaques du Hamas du 7 octobre en les présentant comme une légitime résistance à Israël ou la diffusion publique de messages incitant à porter un jugement favorable sur le Hamas ou le djihad islamique relève de l'apologie du terrorisme. Que pensez-vous, Christophe Bigot, de l'accusation d'instrumentalisation que fait la France insoumise dans sa proposition de loi ?
Alors, je pense que déjà que c'est faut dire qu'une circulaire, ça s'impose pas à un juge, hein, et que donc, in fine, ce sera les juges qui vont décider ce qui est proportionné. Et il est tout à fait possible que les juges considèrent que la proportionnalité doit les conduire à une appréciation différente de celle du garde des Sceaux. Le fait de présenter sous un jour favorable des crimes terroristes, c'est une définition qui est assez subtile. Hein. Et il est vrai que depuis le 7 octobre 2023, je pense qu'il y a une partie du contentieux qui a été instrumentalisée par un certain nombre de nouvelles associations qui probablement poursuivent des buts idéologiques. Alors, c'est pas pour ça que le délit n'est pas nécessaire, hein, mais il y a cette espèce de mouvement auquel il faut faire attention, parce que ce sera toujours au juge de rappeler les choses.
Et ce que vous craignez, c'est que le juge pénal soit moins sensible que le juge qui est formé au contentieux du droit de la presse et donc de l'expression publique, qui soit moins sensible à cette défense de la liberté d'expression.
Oui, parce que grâce à la procédure en matière de terrorisme, on peut par exemple aller dans des procédures de comparution immédiate. Ces comparutions immédiates, ça veut dire que sur une après-midi, un juge va juger 20 affaires de vol à la tire, de trafic de stupéfiants et tout d'un coup d'apologie de terrorisme. Mais juger des mots, apprécier la portée de mots, c'est très compliqué. Faire la distinction entre celui qui contextualise les actes du 7 octobre et celui qui les justifie, ça mérite quand même une réflexion fine qu'un juge en droit commun ne peut pas forcément faire, n'a pas le temps de faire.
Donc vous plaidez, Christophe Bigot, pour la réintroduction du délit d'apologie du terrorisme dans le droit de la presse.
Exactement.
Par contre, ce n'est pas ce que propose la France Insoumise.
Absolument pas. Absolument pas. La France Insoumise propose une abrogation pure et simple. Et c'est là où le projet est absolument glaçant, parce que ça voudrait dire que toutes les apologies de crimes en France sont punies, sauf l'apologie de crimes de terrorisme. Comme si c'était finalement un crime qu'on pouvait légitimement voir sous un jour favorable. Donc ça, c'est à mon avis inaudible. Et c'est vrai qu'on est frappé par le fait que dans la communication publique de la France insoumise, c'est pas ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils veulent rapatrier le délit dans le droit de la presse. Mais c'est absolument pas ce que dit la proposition. Non. C'est une abrogation pure et simple.
Alors en effet, il y a trois articles dans cette proposition de loi. Premièrement, abrogation. Deuxième article, on veut un rapport sur l'utilisation de ce délit depuis 2014. Troisième article, on veut un rapport sur l'utilisation de ce délit depuis le 7 octobre 2023. Donc, pas du tout ce qui est raconté la plupart du temps. On comprend, vous, Christophe Bigot, c'est que c'est parce que pour la cohérence du droit et pour que le juge soit sensible et fin sur son interprétation de la loi que vous plaidez pour la réintroduction de ce délit dans le droit de la presse.
Exactement. On a une cohérence de notre droit. Depuis 1881, tout ce qui vient réprimer la liberté d'expression, c'est la loi sur la presse avec des garanties. Si on commence à sortir une infraction, on va en sortir une, puis deux, puis trois, et finalement, on va détricoter en réalité un régime qui est protecteur d'une liberté fondamentale. Et c'est ça qu'il faut éviter, à mon avis.
Merci beaucoup, Christophe Bigot. Et je me tourne vers vous, Guillaume Herner, pour la suite de Matin.
Et je vous remercie, Marguerite Caton.
6h30, 9h, les Matins de France Culture. Guillaume Herner.
Les Échos, d'ailleurs, aujourd'hui, nous emmènent au Liban avec la romancière et essayiste Dominique Aidé pour parler des bombardements du 27 novembre.
Mardi 27 novembre, le Liban a connu une journée de bombardements dévastateurs. Les gens terrorisés quittaient leur domicile pour aller se réfugier un peu partout. Le cessez-le-feu se négociait comme il se doit, dans la surenchère. À 21h, Netanyahou l'a annoncé à la télévision, précisant qu'il prendrait effet à 4h du matin et qu'Israël gardait une totale liberté d'action militaire. Si le Hezbollah devait violer l'accord ou tenter de se réarmer, a-t-il ajouté, nous frapperons très fermement. À 4h moins 2, une dernière bombe est tombée. À 4h et quelques, des milliers de réfugiés repartaient leurs matelas sur le dos vers leurs maisons détruites dans le sud. Le ressort des Libanais est un phénomène extraordinaire au sens propre du terme. Peu après, des tirs ininterrompus du Hezbollah, signifiant la victoire, nous privaient des premières heures de sommeil et de calme. Cette fanfaronnade, censée maintenir le moral des troupes, se poursuit pendant que je vous parle. Pour le cas où nous n'aurions pas compris, le Akhbar, journal affilié du Parti de Dieu, titre « Résistant et victorieux ». Pas un mot d'autocritique, pas un mot pour les morts, les blessés, les endeuillés. Des esprits enflammés persistent à adhérer à cette prise en otage des populations au nom d'une résistance qui n'a plus d'elle que le nom. Et ce soir, l'armée israélienne a déjà violé le cessez-le-feu en tirant sur des journalistes à Khiam. Les convictions, disait Nietzsche, sont des ennemis de la vérité, plus dangereux que les mensonges. Je dirais que c'est l'addition des convictions et des mensonges qui est explosive. L'Israël de Netanyahou excelle dans l'exercice. Le Hezbollah n'est pas à la traîne. Rappelons accessoirement que derrière cette entreprise de destruction générale du Moyen-Orient, nous vivons sous le règne exclusif des mâles. La guerre est l'affaire des hommes depuis toujours, à ceci près que la démonstration sanglante de leur puissance n'égale aujourd'hui à l'échelle planétaire que leur impuissance à camoufler leur débandade. Il n'y a qu'à voir. Plus il y a de guerre, plus l'avenir recule.
C'était la romancière libanaise Dominique Hédé. 7h25, le reportage de la rédaction. Jusqu'au 9 décembre, les salariés des très petites entreprises peuvent voter pour leur syndicat, des élections qui concernent 5 millions de personnes. Mais avec quelle mobilisation? Un reportage de Wafia Kenich dans le Finistère.
Alors là, on est dans les bureaux de l'entreprise qui est installée ici depuis 1970. Ici. C'est le bureau de mon conducteur de travaux, Eric.
Eric, 53 ans, cheveux poivre et sel et veste de chantier sur le dos, est ici, chez lui. En 1994, il a commencé comme apprenti dans cette TPE. Il est aujourd'hui chef de travaux. Il connaît les employeurs, toutes les petites boîtes du coin, les gars sur les chantiers, mais les élections professionnelles, il n'est pas au courant, comme ses collègues, les syndicats. Il n'en côtoie pas.
Alors déjà, dans le bâtiment, c'est historique, hein, ça ne se syndique pas. Ce n'est pas dans la culture du bâtiment, c'est vrai. Alors pourquoi, je ne sais pas.
Et là, même quand il y a eu la réforme des retraites, vous ne vous êtes pas manifesté?
Non, pas vraiment.
Et vous étiez d'accord avec la réforme?
Non, pas vraiment. Ben, moi, plus tôt je pourrais arrêter, mieux ce sera, hein, évidemment. Hein.
Et à ce moment-là, vous ne vous êtes pas dit, je vais aller manifester aussi?
Non, pas vraiment. Oui, alors c'est vrai que subir tout le temps, ça va un temps. Hein. Je pense que s'ils n'étaient pas là, les syndicats, ça serait pire. Probablement, on serait en Chine. Hein. Mais pour l'instant, j'ai jamais eu trop à m'en servir de mes droits. Donc,
Vous n'avez pas de manteau? Dans l'atelier, ça caille.
La patronne d'Éric, Emmanuel, est membre de l'organisation patronale, la CAPEB, organisation qui affiche la volonté d'encourager leurs salariés à voter. Pour Emmanuel, ça n'est pas évident.
Je pense vraiment que c'est aux syndicats de venir les voir. Parce que nous, en fin de compte, la CAPEB, on va parler aux adhérents qui sont les chefs d'entreprise et pas aux salariés, en fait. Alors après, moi, j'ai le sentiment, en interne, dans mon entreprise, d'entretenir ce dialogue social parce qu'on le fait de front, mais peut-être que c'est illusoire et qu'il manque un échelon, effectivement, et que peut-être dans mon équipe, il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans notre fonctionnement et qui auraient besoin d'être accompagnés, et que ce n'est pas le cas.
Et finalement, la faible participation aux élections professionnelles a pourtant des conséquences sur le fonctionnement des TPE.
C'est dommageable pour tout le monde et pour nous, élus CAPEB et chefs d'entreprise, on a besoin en face d'avoir quelqu'un qui a la réalité concrète de tout ça. Et effectivement, on n'a pas d'interlocuteur dans les négociations de branche. Et j'ai quelqu'un, par exemple, qui ne voulait pas partir en retraite à temps plein tout de suite, mais ce que l'appareil législatif nous offrait ne répondait pas à sa demande, donc il va partir. Alors que moi, j'aurais aimé qu'il reste à mi-temps, lui aussi, mais ce n'était pas possible. Donc c'est dommageable pour les deux, pour nous et pour eux.
Un manque de dialogue social et parfois dans l'application du droit du travail, notamment pour les salariés CESU, pour particuliers employeurs, qui peuvent eux aussi voter pour ces élections professionnelles, comme Nathalie, 49 ans, aide à domicile et membre de la CGT, rencontrée au siège du syndicat à Quimperlé.
Ça peut être du ménage, de l'assistance de vie, de la garde d'enfants,
aussi du jardinage, ça peut être des menus réparations, des petits travaux, etc. Tout ça, ça fait partie des particuliers employeurs. Quand le particulier devient, lui, l'employeur via le CESU.
Quand vous travaillez au quotidien, vous devez vous sentir un peu seul quand même.
Complètement seul. Vous n'avez pas de collègues, vous n'avez pas de référent à qui en parler. Et ben, on se fait beaucoup mener par le bout du nez par nos employeurs qui pensent qu'on n'est pas forcément des salariés au même titre que les salariés dans les TPE, dans les PME, etc. Et on ne connaît pas nos droits. Moi, je vois que 95% de mes collègues ne se font pas payer leurs jours fériés. Sauf que c'est un droit. Depuis le 1er janvier 2022, les employeurs, ils disent de ne pas le savoir. Ils ont quand même des informations régulières par le CESU, des emails, des lettres, infos, etc. Donc, ils ne sont pas dépourvus de connaissances.
Des salariés qui vivent pour une partie d'entre eux en marge du débat social. Les résultats de ces élections sont attendus autour du 15 décembre prochain.
C'était le reportage de la rédaction signé Wafia Kenich. Dans quelques instants, on va revenir sur Michel Barnier sous la menace du Rassemblement national. Et tout d'abord, on va étudier la manière dont le Rassemblement national a évolué ces derniers temps, sa perception. Dans l'opinion, on sera en compagnie d'un sociologue, Étienne Ollion. Il a publié avec Michael Fessel une étrange victoire, l'extrême droite contre la politique, aux éditions du Seuil, 7h30 sur France Culture. Et c'est le journal de l'écho d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, c'est de plastique qu'il s'agit dans le décryptage écho à l'occasion du sommet international de Busan en Corée du Sud, où 178 pays tentent de s'accorder sur ce qui serait le premier traité international destiné à supprimer la pollution plastique sur la planète. Ces négociations se tiennent alors que continuent de s'entasser les déchets plastiques sur la Terre. Rien qu'en 2019, le monde en a fabriqué 460 millions de tonnes, un chiffre qui a doublé depuis 2000 selon l'OCDE. Or, 90% de ce plastique n'est jamais recyclé. Que font alors les pays de ces déchets? Beaucoup les exportent pour les faire recycler ailleurs, en d'autres termes pour en sous-traiter la gestion, ce qui génère aussi des trafics illégaux. Bonjour Laura Dulieu.
Bonjour.
C'est vous qui signez ce décryptage éco. Laura, beaucoup de ces déchets plastiques parcourent des dizaines de milliers de kilomètres sur des bateaux pour être exportés donc vers des pays en développement.
Oui, principalement vers des pays asiatiques. Entre 1992 et 2016, par exemple, 72% des déchets mondiaux ont été exportés vers la Chine et Hong Kong. De quoi soulager l'Europe et les États-Unis où les infrastructures de recyclage des déchets n'étaient pas suffisantes. Sauf qu'en 2018, la Chine a totalement interdit l'importation de plusieurs déchets solides, parmi lesquels le plastique. Résultat, cette année-là, les importations de déchets plastiques ont baissé de 99% dans le pays. C'est donc l'Asie du Sud-Est qui les a récupérés. Entre 2016 et 2018, la région a vu les importations de déchets plastiques bondir de 171% en Malaisie, au Vietnam, aux Philippines, avant qu'à leur tour, ces pays mettent en place des restrictions pour ces importations.
Du côté de l'Union européenne aussi, la législation a beaucoup évolué sur le commerce de ces déchets plastiques.
Oui, on parle là de la Convention de Bâle, entrée en vigueur en 1992. Elle encadre les mouvements transfrontaliers des déchets. Et depuis 2019, le plastique fait partie de la liste des déchets dangereux. Donc concrètement, ça veut dire que les pays importateurs ont le droit de demander des informations sur les déchets qu'ils reçoivent et donc de les refuser. Un règlement de la Commission européenne stipule même que seuls les déchets plastiques non dangereux et facilement recyclables peuvent être exportés vers des pays non membres de l'OCDE. L'OCDE qui a elle-même retranscrit cette règle dans son système de contrôle, ce qui fait que même les États qui ne font pas partie de la Convention de Bâle, comme les États-Unis, eh bien ils y sont désormais soumis. Bref, toutes ces législations engendrent, c'est vrai, une baisse générale ces dernières années des exportations des déchets plastiques en provenance des grands pays exportateurs, Japon, États-Unis et plusieurs membres de l'Union européenne, vers les pays hors OCDE.
Une baisse générale, Laura, mais les situations varient au cas par cas.
Oui, la Malaisie et la Turquie, par exemple, continuent d'être inondées des conteneurs de plastique venus d'Europe. L'Union européenne qui a exporté 1,3 million de tonnes de déchets plastiques en 2023. 22% ont été envoyés en Turquie, 21% en Malaisie, soit 283 000 tonnes pour ce pays d'Asie du Sud-Est. Un chiffre en hausse de 35% en un an. Mais il est censé diminuer dans les prochaines années, puisqu'en 2023, les députés européens se sont engagés engagé à interdire dès 2026 toutes les exportations de déchets plastiques vers des pays hors OCDE. Sauf que les déchets plastiques, eux, continuent de s'accumuler. De quoi alimenter les trafics illégaux avec une véritable économie souterraine du plastique recyclé qui reste difficile à évaluer, mais elle est bien réelle. Des cargaisons illégales de déchets sont régulièrement interceptées. Des cargaisons dont les routes semblent se diriger, selon Interpol, de plus en plus vers l'Amérique latine et l'Afrique.
Laura Dulieu, merci. On retrouve votre décryptage éco à la page du journal de l'Écho sur le site de France Culture. On passe à l'actu économique en bref. Avec une matière première dont le coût n'a jamais été aussi élevé depuis 50 ans, le café. Le cours de l'Arabica a atteint un sommet hier, essentiellement en raison de craintes grandissantes sur la récolte à venir au Brésil. Premier producteur mondial, touché par une sécheresse historique et des semaines d'incendie. L'envolée des prix concerne aussi le Robusta, variété bon marché, moins aromatique. Ces augmentations devraient se répercuter en bout de chaîne dès le début de l'année prochaine. Nestlé, par exemple, a annoncé déjà une augmentation du prix de ses capsules Nespresso et une réduction de la taille de ses sachets. Nestlé, toujours à propos de ses eaux en bouteille en France, et l'entreprise avait reconnu en début d'année avoir eu recours à des systèmes de désinfection interdits pour maintenir la sécurité alimentaire de ses eaux minérales. Un scandale qui a encouragé le Sénat à voter cette nuit une augmentation de la TVA sur l'eau en bouteille de 5,5 à 20%, sauf pour l'outre-mer, une mesure censée inciter les consommateurs à privilégier l'eau du robinet. Et puis la France emprunte désormais au même taux que la Grèce sur les marchés financiers, ce qui signifie que pour les emprunts à 10 ans que fait la France pour financer sa dette, les prêteurs estiment qu'il y a autant de risques à prêter à Paris qu'à Athènes, pourtant longtemps considéré comme particulièrement à risque. Et ce, alors que Bercy devra emprunter, on le rappelle, l'année prochaine, un montant record de 300 milliards d'euros. Dans les pays de l'Union, seule l'Italie emprunte à un taux plus élevé. Des taux qui, il faut le noter, enfin, sont plutôt en baisse ces derniers mois, tout pays confondu. 2,66% pour l'Allemagne, 3% pour la France en moyenne.
De quoi va-t-on parler à 8h dans le prochain journal, Anne-Laure ?
Margot Delpierre reviendra sur la trêve au Liban. Nous serons à Tyr où les déplacés libanais reviennent en masse. En France, la France insoumise va déposer une demande d'abrogation de la réforme des retraites dans le cadre de sa niche parlementaire. Et puis nous reviendrons sur les coupes drastiques prévues dans le budget de la culture dans la région Pays de Loire.
Merci beaucoup, Anne-Laure Chouin. 7h36 sur France Culture.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et voici la revue de presse internationale. Bonjour Mathilde Ansker.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
Ce matin, vous nous parlez d'une chaîne de télévision fermée par les autorités maliennes.
Elle s'appelle Joliba TV News. C'est une chaîne privée qui a donc cessé d'émettre mardi matin. Et si cette chaîne est censurée, c'est à cause d'une plainte émanant du Burkina Faso, le pays voisin. Alors remontons un petit peu dans le temps. Nous sommes le 10 novembre dernier. Un homme politique, ancien soutien de la junte malienne, Issa Kawen Jim, est invité sur le plateau de Joliba TV News. Il émet alors des critiques sur les militaires au pouvoir au Burkina Faso. Il est arrêté 3 jours plus tard. Et dans le même temps, les Burkinabés demandent au Mali de réagir. La HAC, la haute autorité de la communication malienne, reproche donc à Joliba TV News une violation de l'éthique et de la déontologie. La chaîne perd alors sa licence. La suite, on peut la lire sur le site MaliWeb qui publie des articles de plusieurs quotidiens maliens. Levé de bouclier donc chez les journalistes du pays, la maison de la presse et les organisations professionnelles des médias publient un communiqué. Ils menacent de tous diffuser la séquence incriminée. Mais ça n'a visiblement pas suffi et ça inquiète certains médias. Un article publié toujours sur ce site MaliWeb assure que la HAC vient d'écrire, je cite, « une des pages les plus sombres de l'histoire de la presse malienne ». L'auteur s'interroge, cette décision lui semble tellement incompréhensible qu'il se demande si toute cette histoire n'est pas un prétexte pour museler la chaîne de télévision. Une chaîne qui, selon lui, donne la parole à tous les Maliens, sans discrimination ni censure. En tout cas, cette décision fait réagir aussi dans le pays voisin. Le quotidien burkinabé Aujourd'hui au Faso s'inquiète pour la liberté d'expression dans l'espace AES. AES, c'est l'acronyme de l'Alliance des États du Sahel qui regroupe le Niger, le Burkina Faso et le Mali. La loi des reins imposée au Burkina devient valable dans les 2 autres pays, peut-on lire sur le site du journal. Désormais, ce qu'un journaliste ne peut pas écrire ou dire à Ouagadougou, son collègue de Bamako ou de Niamey ne le peut non plus. La coopération politique et sécuritaire déborde maintenant sur le volet des médias. Les hommes de la presse doivent se le tenir pour dit, écrit l'auteur. Enfin, l'AFP rappelle de son côté que le Mali comme le Burkina Faso sont dirigés par des régimes militaires qui ont pris des mesures répressives contre la presse. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Joliba TV News est prise pour cible. La chaîne a déjà été suspendue pendant 2 mois en 2022.
Bon, change de continent, en Corée du Sud. Cette fois-ci, Mathilde, la naissance d'un bébé relance un débat de société.
Et c'est une histoire qu'on peut lire sur le site de la BBC. Le bébé en question est l'enfant d'un acteur très connu en Corée du Sud, Jong-woo Sung. Sa mère est mannequin, elle s'appelle Moon Gabi. Et là où ça coince, c'est qu'ils ne sont pas mariés. Il n'en fallait pas plus pour enflammer l'internet sud-coréen. Pour le Korea Herald, cette affaire souligne la position profondément conservatrice du pays sur la question du mariage. Le quotidien explique que de très nombreuses réactions condamnent le comportement de l'acteur sur les réseaux sociaux. Et selon Korea Now, les fans de Jong-woo Sung ont même publié un communiqué sur le sujet pour soutenir l'acteur. Ils appellent la société coréenne à un état d'esprit plus ouvert, mais invitent aussi l'acteur à prendre la parole. On va écouter un extrait du reportage de Korea Now sur ce communiqué.
They then urged Jung to provide a clear explanation at the 45th Blue Dragon Film Awards.
Les fans incitent Jung à donner une explication lors du 45e Blue Dragon Film Award. Le communiqué indique que pour le bien de la réputation qu'il a bâtie en tant qu'acteur, nous l'encourageons fermement à répondre aux problèmes de manière transparente lors de la cérémonie. Une cérémonie qui est prévue demain. Au-delà des fans et des internautes, des politiques s'emparent aussi du débat. La BBC cite un député conservateur qui s'est exprimé anonymement dans la presse. Il assure qu'avoir un enfant hors mariage est quelque chose d'impensable dans ce pays. Et de l'autre côté, la députée Lee So-young du Parti démocrate de Corée affirme que supposer que d'avoir un enfant oblige les gens à se marier et à assumer les devoirs de cohabitation et de soutien mutuel semble étouffant. Toujours est-il que la plupart des petits sud-coréens naissent de parents mariés. Le Korea Herald rappelle que 4,7% des enfants sont nés hors mariage en 2023, contre 62% en France en 2020.
Enfin, Mathilde, vous nous parlez d'un bâtiment en forme de coq.
Oui, le coq, celui qui fait cocorico, hein, le mâle de la poule, bien sûr. Eh bien, saviez-vous que le plus grand bâtiment du monde en forme de coq se situe aux Philippines? C'est un article de CNN qui nous l'apprend. Alors, ce bâtiment mesure quand même 34 mètres de haut. C'est en fait un hôtel de plusieurs étages, doté de 15 chambres sans fenêtres. Sinon, ça fait des trous sur le coq. Et au-delà de l'anecdote, selon CNN, ce bâtiment nous dit quelque chose sur la culture philippine, puisque l'homme à l'origine de ce projet, Ricardo Cano Guapotan, dédie ce bâtiment à l'industrie du gibier à plumes. Elle emploie des dizaines de milliers de personnes aux Philippines, notamment pour les combats de coqs, une pratique traditionnelle dans le pays. Toujours d'après l'article, des millions de pesos sont gagnés dans les arènes de combats de coqs, en dépit des protestations des défenseurs des animaux. Ricardo Cano Guapotan se dit, lui, fier que les Philippines disposent d'un bâtiment emblématique, source d'héritage, de fierté et d'honneur. Alors si vous voulez y dormir, sachez qu'une chambre pour 4 personnes coûte un petit peu moins de $80.
Merci beaucoup Mathilde Ansker pour cette revue de presse internationale. Dans quelques secondes, on va évoquer le Rassemblement National. Ses idées, son idéologie a-t-elle changé? Assiste-t-on plus généralement à une évolution des idées de l'extrême droite? On en parle avec le sociologue Étienne Ollion.
Au programme de notre débat critique des séries La Messias de Javier Ambrosi et Javier Carbo sur Arte.tv et Ça c'est Paris de Marc Fitoussi, diffusé sur France 2.
Marie Laborie.
Et puis je reçois l'auteur-compositeur Étienne Dao pour la sortie d'un nouvel album, Étienne Live, qui prolonge sa tournée Dao Show, achevée en mai dernier.
Les midis de culture. Aujourd'hui à midi sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Figure du féminisme, Simone de Beauvoir a été la chroniqueuse de sa propre vie dans ses mémoires. En s'emparant de ce matériau, la compagnie Animal Architecte signe une fresque passionnante sur le parcours d'une femme du XXe siècle dans laquelle sept actrices et acteurs mettent en jeu ce que veut dire grandir, vieillir, devenir. Les forces vivent jusqu'au 20 décembre aux ateliers Berthier à Paris dans le cadre du Festival d'automne, un spectacle France Culture. Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Les idées du Rassemblement national n'ont jamais été aussi présentes dans la société française, comme le disent plusieurs sondages, mais le parti demeure isolé politiquement, coincé entre sa figure d'opposant au système et le soutien tacite qu'il apporte au gouvernement Barnier. Quels sont les différents scénarios qui se présentent à lui aujourd'hui? Bonjour Étienne Ollion.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS, professeur associé à l'École Polytechnique. On vous doit notamment un livre que vous avez coécrit avec Michael Feussel, Une étrange victoire, l'extrême droite contre la politique, paru aux éditions du Seuil. Un dernier baromètre expliquait par exemple que 39% des Français affirment être en accord avec les idées défendues par le Rassemblement national. Une majorité de Français, 51%, considèrent désormais que le Rassemblement national ne représente pas un danger pour la démocratie. C'est une progression régulière depuis 2022, puisque là, par exemple, sur ce dernier item, 51% des Français qui considèrent que le RN n'est plus un danger, eh bien, on est 10 points au-delà de ce score qui était le leur en 2022. Donc, une progression assez rapide. Quelques commentaires à ce sujet, Étienne Ollion.
La première chose, en effet, c'est que si on croit ce sondage, il y a quelque chose de l'ordre de la normalisation du Rassemblement national à travers cette question que vous venez d'évoquer, 51%, croisement des courbes qui s'est fait il y a quelques années, récemment, hein, très récemment. Alors les sondages, il faut toujours les prendre avec un petit peu de prudence, parce que même si on croit au sondage, au dispositif, le sondage, ça mesure bien, si on y croit, l'opinion à un moment T. Mais l'opinion à un moment T, on ne sait pas si c'est l'opinion d'hier ou une structure un petit peu plus profonde de l'opinion et un plus grand changement. Et ça, c'est important parce que en politique, probablement plus que dans d'autres domaines, l'offre est très importante, probablement beaucoup plus, elle pilote beaucoup plus les idées que la demande. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que les prises de position des partis sont très importantes pour expliquer comment les gens vont répondre aux questions. Et donc, en ce moment, comme le Rassemblement national a une espèce de bande passante très importante du fait de sa position politique, du fait de la situation politique, alors il est assez probable que le Rassemblement national puisse parvenir à se légitimer. Bon, mais enfin, même en prenant toutes les précautions qu'on veut avec ce sondage, ça dit quand même quelque chose des transformations qui ont eu lieu récemment pour le Rassemblement national. Alors ce qui est intéressant, c'est que le sondage que vous citez montre aussi que sur toute une série d'idées, les Français seraient plus proches désormais des idées du Rassemblement national sur la question de l'immigration, sur la question de la sécurité, etc. Et ça, c'est un changement, ou ce serait un changement si on prend ce sondage très au sérieux, parce que jusqu'à présent, et en tout cas au cours des 10 dernières années, le Rassemblement national n'a pas tant réussi à gagner des voix en convainquant les gens de ses idées qu'en changeant d'idée. Hein, on pourrait citer toute une série de thématiques sur lesquelles le Brexit ou le Frexit, sur l'Europe. Il faut se souvenir qu'il y a encore 7 ans, hein, c'est il n'y a pas très longtemps, la campagne présidentielle de 2017, le parti demandait la sortie de la monnaie unique. On n'entend plus beaucoup parler de Frexit aujourd'hui. Surtout ce qu'on appelle le libéralisme culturel, le procréation médicalement assistée, le mariage pour tous, ou même l'IVG, dont on va fêter les 50 ans demain. Sur ces sujets-là, historiquement et jusqu'à assez récemment, le parti n'était pas particulièrement favorable, alors que l'an dernier, Marine Le Pen a voté avec son parti la constitutionnalisation de l'IVG. Et on pourrait multiplier les exemples comme ça de changement de pied rapide ou de renversement des paramètres un peu historiques ou récents de ce parti. On pourrait dire la binationalité. Il y a 2 ans, le parti était contre. 3,3 millions de Français sont binationaux. Bon, ça commence à grincer un petit peu. On change. Et donc, jusqu'à présent, la manière dont le Rassemblement national avait réussi à percer le plafond de verre, et c'est ce qu'on raconte dans le livre avec Michael Feussel, c'est pas tant en convainquant les Français, c'est pas tant en arrivant à imposer son hégémonie culturelle, hein, comme l'aurait théorisé Antonio Gramsci, et puis plus tard, de manière un peu ironique, les théoriciens de la Nouvelle Droite et Alain Benoît. Non, non, c'est plutôt en volant au service de la victoire et des idées dominantes.
Étienne Ollion, le livre justement que vous avez publié avec Michael Feussel, vous avez eu le nez creux parce que vous l'avez intitulé Une étrange victoire, et je crois qu'il y a quelques jours, il y a un monsieur qui s'appelle Marc Bloch, dont on a appris l'entrée au Panthéon. Lui, il a écrit L'étrange défaite. Pourquoi justement cette évocation de Bloch dans votre titre ?
Le parallèle avec Bloch, pour nous, s'imposait de deux manières. La première, évidemment, hein, c'est qu'on était intéressé à, comme Marc Bloch, chercher à voir les raisons, mais les petites raisons, les raisons parfois non pensées, non conscientisées, qui font que des situations complètement inattendues peuvent arriver. L'étrange défaite de Marc Bloch, qu'est-ce que c'est ? C'est le récit d'une France qui, dans ses années 20 et 30, ne va pas voir arriver la victoire de l'Allemagne. Et ce que fait Marc Bloch, c'est qu'il met l'accent non pas tant sur la puissance de l'Allemagne, il l'évoque, mais il évoque tout un tas de petits déplacements, de changements au sein de la politique, de l'armée, des intellectuels, de l'université, qui l'amènent, des relations entre les classes, qui l'amènent à dire que finalement, ce qui s'est passé, c'est autant le rôle de l'Allemagne que le rôle de la France. Et Bloch est un amoureux de la France, hein, c'est un texte qui est un texte plein d'attention pour son pays, et il s'excuse parfois même de le critiquer. Mais Bloch rappelle que les Français ont joué un rôle. Bah, de la même manière, en fait, si on veut comprendre comment le Rassemblement national et plus largement l'extrême droite ont réussi à s'imposer, sinon dans les idées, en tout cas arriver aux portes du pouvoir, il faut regarder tous les petits déplacements qui ont eu lieu. Il faut se dire que quand il y a dédiabolisation, c'est jamais seul qu'on la produit.
Mais alors, justement, Étienne Olion, parce que si on pousse le parallèle, alors pas jusqu'au bout, hein, je ne veux pas faire des parallèles scabreux, évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la critique que Bloch adresse à la société française, il s'en prend par exemple aux élites, il est très dur avec les élites françaises, il les accuse à la fois de conservatisme et de déconnexion avec le peuple, et c'est un peu ce à quoi on a assisté, par exemple, aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump, où on a beaucoup de critiques qui disent que ces élites, qui sont des élites dans le monde des médias, dans le monde intellectuel, vous et moi, par exemple, eh bien, n'ont pas compris ce qui se déroulait. Qu'en pensez-vous ?
Alors, Bloch est très intéressant de ce point de vue-là. C'est un grand historien. Et de ce point de vue-là, on peut se réjouir qu'il soit panthéonisé, comme vous le disiez, parce que en plus de ses actes de résistance, ça rend hommage à une tradition et une œuvre littéraire et historique très importante. Bloch est intéressant parce qu'il rappelle que avec lui, que l'histoire, en fait, l'histoire enseigne que les faits ne se répètent jamais à l'identique, en fait, et qu'on risquerait toujours de se tromper si on regarde de trop près. Mais enfin, quand on regarde la situation des années 30, Bloch écrit à propos de la montée des nationalismes, la déconnexion des élites, les tensions économiques, la remilitarisation. Et donc, sur tous ces aspects, les fausses nouvelles, ce qu'on appelait à l'époque les fausses nouvelles, hein, qui sont présentes dans ce livre et puis dans un livre précédent. Sur tous ces aspects-là, on a en effet les éléments d'un contexte, de ce que Marc Bloch appelait un contexte, et qui amène à faire, sinon des analogies immédiates, en tout cas des parallèles. Et on pourrait, en effet, se dire que dans la situation actuelle, la défiance vis-à-vis des élites et les autres faits que j'ai mentionnés pourrait amener, sinon aux mêmes causes, en tout cas, avec ces mêmes causes, pour amener à des effets sinon similaires, en tout cas proches.
Mais a-t-on raison dans cette défiance vis-à-vis des élites ? Parce que Bloch fait ce procès-là, on l'a fait aux États-Unis, on est en train de le faire dans le New York Times, il y a chaque jour des papiers pour expliquer que les journalistes, les intellectuels américains n'ont pas compris le phénomène Trump. Est-ce que vous pensez qu'il y a un phénomène semblable, ou en tout cas une critique semblable à mener en France ?
Bah, de manière générale, si on suit les leçons de Bloch, on dira deux choses. D'une part, Bloch disait que c'est la faute des élites, il disait aussi qu'il y avait un problème avec, de l'autre côté, les syndicats. Bon, mais c'est pas ça la question en ce moment en France. La question, c'est de dire il faut regarder tout ensemble, en fait. Il faut se dire quelle est la dynamique qu'on produit. Et donc, c'est pas simplement la question des élites, c'est la question du système dans lequel on est en train d'agir et qui fait qu'on n'arrive pas à communiquer. Et de ce point de vue-là, en effet, il me semble que, et je le dis depuis longtemps et je ne suis pas le seul à le dire, les institutions de la Ve République ont peut-être fonctionné à un moment, mais elles n'arrivent plus à organiser une espèce de conversation permanente et continue qui permettrait à certaines personnes de se sentir impliquées. La Ve République implique les électeurs et les citoyens au moment du vote, ce qui est quand même quelque chose d'assez rare, alors qu'on pourrait, il y a beaucoup de demandes dans ce sens-là, y compris dans le programme du Rassemblement National, mais pas uniquement, d'expression sur des sujets de vie de la cité. Et donc, de ce point de vue-là, moins peut-être que les élites, c'est la manière dont le débat public est organisé et le débat politique qui empêche peut-être d'accéder à ces demandes de plus de participation qu'on sent énormément.
Il y a là aussi un phénomène nouveau en France. J'ai par exemple le dernier numéro du Point et on y trouve une interview de Pierre-Édouard Sterrin. Il est présenté comme un entrepreneur et milliardaire catholique de droite, conservateur assumé. Il lève le voile, dit le magazine, sur ses ambitions politiques. Il fait partie de ce petit nombre de personnes fortunées qui, avec et aux côtés de Vincent Bolloré, est prêt à payer pour ses idées et payer au travers d'un certain nombre d'organismes. Alors là, par exemple, il a une structure qui s'appelle Périclès. D'ailleurs, c'est étonnant comme nom.
Oui, Périclès. Donc Pierre-Édouard Sterrin, c'est donc ce millionnaire, ce milliardaire même, qui s'est investi récemment et qui a décidé de faire cette école de cadre qui s'appellerait Périclès, qu'il définit de la manière suivante. Hein, elle est censée promouvoir le libéralisme économique, l'identité française et l'anthropologie chrétienne. Trois termes que, de prime abord, on ne mettrait pas immédiatement ensemble, mais qui est prêt à y mettre énormément de ressources, puisqu'il avait annoncé, pour une école de cadre, mettre 150 millions d'euros disponibles sur la table. Donc avec l'idée, justement, de réarmer les cadres d'un futur parti politique, mais aussi de réarmer la société en transférant et diffusant ses idées le plus possible, adoptant de ce point de vue-là, la stratégie de l'hégémonie culturelle dont on parlait tout à l'heure, qui n'a pas amené le Rassemblement national au pouvoir, mais qui, maintenant qu'il s'en approche, pourrait devenir l'étape suivante.
Mais alors, c'est très étonnant quand même, parce que cet alliage que vous évoquez, Étienne Ollion, on trouve le même aux États-Unis. Nous avions, par exemple, avec ma camarade Catherine Dutour, rencontré l'un des membres de l'Heritage Foundation. C'est donc l'un des think tanks très richement dotés qui a élaboré le programme de Donald Trump, le programme 2025. Alors, Donald Trump dit que ça n'est pas son programme. Enfin, bon, il y a là-dessus, disons, une ambiguïté. Et alors, il y a les trois mêmes blocs. Il y a un bloc conservateur, un bloc religieux et un bloc libertarien. Trois blocs qui ne vont pas du tout ensemble.
Bah, qui ne vont pas ensemble selon les critères qui étaient ceux dans lesquels on a jusqu'à présent considéré la politique et dont la mémoire commence peut-être et la pratique commence peut-être à s'occulter. Ce qu'on pourrait dire, et vous allez m'accuser de faire beaucoup de gramschisme aujourd'hui à ce micro, mais Gramsci disait que quand un vieux monde s'effondre et avant que le nouveau naisse, en fait, entre les deux naissent des projets alternatifs. Alors lui disait des monstres, je voulais pas reprendre ce terme forcément parce que c'est pas à moi de juger, mais qu'en tout cas naissent des tentatives de recomposition intellectuelle qui vont aller chercher à des endroits extrêmement différents. Et en effet, mettre ensemble Périclès et McKinsey, puis c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit que ce devrait être...
Qu'est-ce qui vous gêne dans cet alliage entre Périclès et McKinsey? Expliquez-nous.
L'orateur de la démocratie athénienne qui est celui qui a introduit l'obol pour que tous les citoyens puissent venir voter et le cabinet de consulting international ne me frappait pas immédiatement comme étant des éléments qui devaient aller ensemble. En tout cas, je ne vois pas très bien les généalogies intellectuelles, mais c'est exactement ce que je disais. On est dans des phases potentiellement de reconfiguration intellectuelle, ou en tout cas, il est possible de tenter, et on l'aura dans les médias, dans certains médias, on aura écho dans certains médias, de tenter d'imposer certaines nouvelles idées. Pas sûr que ça marche, mais en tout cas, les tentatives sont là.
Mais alors, ce qui est étonnant, là aussi, dans ce que dit par exemple Sterrin, on lui dit, mais alors, est-ce que vous êtes un George Soros de droite? Bon, il faut savoir que George Soros est un milliardaire qui a servi, par exemple, dans la Hongrie d'Orban de repoussoir. Alors, il répond, c'est une source d'inspiration ou plutôt d'anti-inspiration. Alors, il dit, voilà, je me retrouve avec George Soros sur un certain nombre de sujets, comme par exemple l'accès à une éducation de qualité pour tous les Français. Idem sur les sujets de lutte contre la pauvreté. En revanche, il y a dans ce que finance Soros des choses très éloignées de mes valeurs. La stratégie woke, bon, ça c'est quelque chose d'attendu, ou encore esclavagiste en souhaitant bannir les frontières et exploiter des populations étrangères en leur payant un salaire de misère.
Oui, alors écoutez, on pourrait faire beaucoup de commentaires sur ces phrases parce qu'elles indiquent beaucoup de choses. Simplement sur la dernière, on pourrait rappeler que... La peur du cosmopolitisme et sa dénonciation, il y a toujours quelques relents potentiellement historiquement ancrée du côté de l'antisémitisme, et je ne veux pas accuser ici qui que ce soit, mais je pense que quand on parle d'un financier juif, on pourrait être un petit peu plus prudent dans la manière dont on mobilise ce genre de tropes.
Mais la question des frontières qui est au cœur, par exemple, là aussi, l'élection de Donald Trump. On évoquait les valeurs du Rassemblement National et vous disiez, Étienne Ollion, le Rassemblement National a changé ses idées. Et finalement, c'est cela qui explique pour partie que celui-ci est aujourd'hui beaucoup plus populaire qu'il n'a été, parce que finalement, il a pris les idées qui montaient. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il ne suffit pas d'un certain nombre d'idées simples? Si on reprend Donald Trump, la question de l'immigration, la question de l'inflation ont été, semble-t-il, les deux piliers gagnants de sa campagne. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir à la française deux piliers dans le discours du RN, qu'on voit dans le discours de Marine Le Pen, l'immigration et, disons, la vie chère ou le pouvoir d'achat?
Si, certainement. Et de toute façon, en politique, quand on mène une campagne, en tout cas, pas dans le reste du travail politique, mais dans la politique, avoir quelques idées simples et surtout identifiées comme telles est particulièrement important. De ce point de vue-là, le Rassemblement National a réussi à s'imposer sur la question de l'immigration, de la sécurité. J'ai dit tout à l'heure qu'ils avaient changé certaines idées. Pour d'autres, elles sont restées bien ancrées depuis la préférence nationale jusqu'à la priorité nationale. Il y a une ligne complètement continue. Ils l'ont tellement imposé que maintenant d'autres partis la ventriloquent pour eux et que donc ils n'ont même plus besoin de l'évoquer, ce qui leur donne l'avantage de ne même plus avoir à imposer ce registre qui parfois pouvait faire un petit peu peur, puisque d'autres le disent à leur place. Sur la vie chère, là en effet je pense qu'il va y avoir une campagne entre différents partis qui s'investissent sur cette question.
Vous restez avec nous, Étienne Ollion. Je rappelle le titre de votre ouvrage, coécrit avec Michael Feussel, Une étrange victoire, l'extrême droite contre la politique, c'est aux éditions du Seuil. Vous serez rejoint.